Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur Radio Grand Ciel. Bienvenue dans l'émission Un livre, un auteur. Pascal Lereste à l'antenne, ethnologue et directeur de collection chez l'éditeur parisien L'Harmattan, pour vous servir. Un livre, un auteur, une émission mensuelle d'1 heure pour découvrir l'univers d'un auteur autour d'un de ses livres. S'immerger pas à pas dans les représentations vécues de celui qui écrit, dans le monde qu'il active, qu'il met en mots, en musique. Telle est mon intention. Et pourquoi ? Mon but, vous donner envie de rentrer dans l'objet livre, en comprenant mieux les ambitions de celui qui écrit, les centres d'intérêt qui président à la construction de son ouvrage. Un livre, un auteur, reçoit un invité par mois et se concentre principalement sur des auteurs publiés chez L'Harmattan, plus grand éditeur indépendant de France. Ces auteurs seront parfois euréliens, parfois américains ou coréens. Bref, ils viendront de partout. Ce seront parfois des auteurs que j'ai pu publier, mais pas toujours. L'éclectisme est le signe de l'émission et les genres proposés iront de l'essai au roman, du récit de vie à la poésie. Une émission mensuelle, comme un rendez-vous pour une rencontre, une belle surprise. 1 heure par mois pour être touché, ému, ou réfléchir et se surprendre à vouloir lire quelque chose d'enfin différent, le livre d'un auteur. Et aujourd'hui, nous recevons sur Radio Grand Ciel Karim Sanogo pour son livre « L'éducateur spécialisé confronté à l'incasabilité, une enquête à l'épreuve du lien », paru aux éditions L'Harmattan, collection « Éducateur et prévention », un livre publié en 2020. Bonjour Karim.
Bonjour Pascal.
Bon, c'est une première, c'est ton premier livre.
Oui, c'est ça, c'est le premier ouvrage.
Un livre que tu as écrit après avoir fait une formation d'État d'ingénierie sociale.
Oui, c'est ça.
Donc, tu es diplômé d'État en ingénierie sociale. Et donc, tu t'es inspiré de ton mémoire de fin d'études pour faire donc un livre à destination d'un grand public.
Oui, c'est ça. En fait, ce livre, c'est la publication d'une grande partie de mon travail de mémoire par rapport à cette formation en ingénierie sociale, donc je trouvais que c'était intéressant de l'ouvrir à un plus grand nombre, parce que je trouve que la question, dans tous les cas, dans le domaine du travail social, elle mérite réflexion. Donc c'était l'occasion, une opportunité. Je pense que c'est... j'espère que ça va intéresser ceux qui vont pouvoir le lire Et ça participe aussi, mon choix participe aussi du fait que j'avais vu peu d'études sur cette question de l'incasabilité, notamment en relation avec cette dimension des professionnels de première ligne qui sont en majeure partie des éducateurs spécialisés. Mmh. Voilà.
Alors, parce qu'il faut dire que tu étais à l'époque éducateur spécialisé, oui, faisant donc cette formation de niveau 1, à l'issue de laquelle tu es devenu chef de service,
oui,
donc dans le monde dit médico-social, et tu t'es spécialisé en quelque sorte donc dans ce qu'on peut appeler les jeunes en situation un peu difficile, avec des problématiques sociales complexes, dont certains sont dénommés incasables.
Oui, c'est ça.
Donc, incasable, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, en fait, il n'y a pas de case pour eux. Il n'y a pas d'établissement pour eux, quoi.
Oui, c'est ça, quoi. Ce sont des jeunes en très grande difficulté qui posent des problèmes essentiellement dans les établissements dans lesquels ils sont placés dans le secteur de protection de l'enfance. Donc, des établissements qui sont prévus pour ça. Quand il y a des enfants en danger ou en risque de danger, c'est ce que dit le texte de loi. Et parfois, ça reste pour certains d'entre eux, c'est très très compliqué parce qu'ils sont envahis par leurs problématiques qui est dite complexe parce que ça associe à la fois tout ce qui est de l'ordre de difficultés familiales, mais aussi, on va dire, intrapsychiques, aussi, par rapport à leur développement. Et ils n'arrivent pas à tenir dans un établissement, ils n'arrivent pas à tenir dans la dimension collective. Mmh. Et du coup, parfois, dans le secteur de l'aide sociale à l'enfance, il est difficile de leur trouver un endroit.
Mmh. Pour nos auditeurs qui connaissent pas forcément le travail social, quand tu dis que c'est difficile pour eux de tenir, ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce qu'ils posent comme acte? Comment ils se comportent?
On a affaire à des jeunes qui ont des comportements qui sont en décalage avec les règles de vie qui sont posées en foyer, en MEX, maison d'enfants à caractère social, et qui perturbent finalement le bon déroulement de l'établissement ou de la vie de groupe, ou qui peuvent se mettre en danger. Et en effet, transgression sur transgression, une réflexion est menée pour savoir, pour trouver un lieu adapté, parce que les responsables d'établissement qui doivent aussi se saisir de cette question-là considèrent que lorsque le risque de danger est trop important, eh bien, leur établissement n'est plus adapté. Mmh. Donc, ça provoque des ruptures. Mmh. Et on a des jeunes qui font quasiment tous les établissements de leur territoire, du département, qui sont connus. Et on n'arrive toujours pas à trouver des solutions. Le jeune n'arrive toujours pas à s'apaiser.
Parce qu'en fait, ces transgressions, c'est de la violence physique, par exemple?
Ça peut être de la violence physique, de la violence psychologique, ça peut être de l'automutilation, ça peut être des souffrances auto-centrées ou orientées vers l'extérieur, de l'incapacité à se mobiliser dans tout projet. Voilà, ce sont des violences je veux dire à tous les niveaux, mais qui inquiètent dans la mesure où là où les professionnels sont censés les aider à pouvoir se développer, parce que pour la majorité on a affaire à des enfants, des adolescents, donc il y a cette question du développement aussi qui est en jeu, on reste toujours confronté à cette impasse et on est spectateur de la souffrance de l'enfant, et c'est ça qui est difficile. Donc bien sûr il y a tout un travail de partenariat avec le secteur de la psychiatrie aussi, parce que parfois voire souvent on est interrogé à ce niveau-là, mais je trouve que ce qui était intéressant à soulever, c'est la question de l'accompagnement dans un collectif, dans des foyers, avec des professionnels pluridisciplinaires. Et malgré ça, on est quelque part, par ces jeunes, mis à l'échec. Échec. Et c'est là où je voulais, moi, m'arrêter un petit peu et voir ce qui bloquait, ce qui allait pas. Est-ce que cet échec, on peut l'imputer aux professionnels? Jusqu'aujourd'hui, et c'est peut-être ce qui a motivé cette étude, c'est que souvent, cet échec, il était imputé aux jeunes. Il est imputé à l'enfant. C'est l'enfant qui pose ce problème, c'est l'enfant qui n'arrive pas à s'adapter, etc. Donc je trouvais que c'était, de par notre mission, parce qu'on est formé pour ça, on a 3 ans d'études quand on est éducateur spécialisé, il y a d'autres corps de métier, assistant social, on travaille avec des psychologues, avec des psychiatres, mais malgré ça, la question méritait d'être soulevée et de pouvoir s'y pencher.
Très bien. Donc, les auditeurs auront compris que tu es à la fois un professionnel de terrain, tu as un diplôme d'État d'éducateur spécialisé. Mmh. Ils ont compris que tu étais aussi un expert, puisque tu as un diplôme d'État d'ingénierie sociale. avec donc une entrée sociologique.
Oui.
Mais il faut également que tout le monde sache que tu as une autre qualité, puisque tu as été champion de France, donc de boxe thaïlandaise en 2002. Donc bien sûr, là, personne ne peut te voir, mais tu es grand, comme on dit, tu es taillé en V, tu es costaud. Voilà, en 2002, tu as été champion de France de boxe thaïlandaise. Tu as pratiqué énormément cette discipline. Tu as été un compétiteur émérite. Et donc, évidemment, je présume aussi que dans ta relation assez jeune, ça a dû avoir son importance. Peut-être pour redéfinir des limites pour ceux qui étaient dans une forme de toute-puissance narcissique. Mmh. Peut-être que ça a eu un effet de réassurance, peut-être, parce que tu es quelqu'un de paisible, de calme. Ça a pu avoir un effet aussi, peut-être, d'apaisement pour certains, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ?
Oui, alors donc j'ai cette autre passion dans ma vie pendant longtemps que j'ai entretenue à travers le sport, et ça a entraîné mon entrée dans la discipline de la boxe, pieds-poings, voilà. Donc j'ai parcouru un petit peu pas mal de disciplines, entre la boxe thaï, la boxe française, le full contact, etc. Et ensuite, je me suis arrêté sur la boxe thaïlandaise, c'est ce qui m'intéressait le plus à ce moment-là. Mais oui, en effet, c'est un élément que j'ai pu utiliser aussi dans le cadre professionnel, dans la mesure où la place du sport, et notamment du sport individuel, parce que je trouve que c'est intéressant de faire la distinction entre les sports collectifs et les sports individuels. J'ai fait un peu de foot, etc., comme pas mal de jeunes. Mais c'est vrai que en étant dans cette pratique de la boxe, sport individuel en compétition, je trouve qu'en matière de construction, c'est très intéressant. C'est très intéressant. C'est une éducation. Moi, je l'ai vécu comme ça. Je me suis beaucoup construit. Pourtant, j'ai commencé tard. Hein. J'ai commencé à 19 ans. Donc, voilà. Mais malgré qu'à cet âge-là, j'étais quand même entré dans la vie. Voilà, ça reste une construction. Et je trouve que pour des jeunes en souffrance, qui vont mal, ça peut être intéressant aussi de passer par le biais du sport. Après, ça peut être sport collectif, hein, pas forcément le sport individuel. Mais je trouvais que dans le sport individuel, il y a cette question de soi. On est dans un face-à-face entre soi et le monde. Voilà, c'est ça. Et il faut composer avec ça. Il faut composer avec les règles, il faut composer avec la discipline, etc. C'est pas qu'une performance physique. Et ça aussi, en effet, dans la dimension professionnelle, en tant qu'éducateur spécialisé, j'ai pu l'utiliser avec pas mal de jeunes, de pouvoir discuter autour de ça, puisque ce qui est en jeu, c'est la construction. C'est ça. Comment on se construit, comment on devient sujet, comment on prend sa place dans le monde. Et ça peut être un microcosme qui va commencer par le sport et ensuite s'élargir dans la société, etc. Voilà, donc c'est... Et alors, est-ce que la plus-value, est-ce que ça a une plus-value ou pas ? Cette question de la confrontation, du fait de vivre des épreuves où finalement on est attendu, un aspect que je trouve très intéressant, c'est la question de la relation. Voilà, on fait un métier de relation, et le sport et les sports de combat, c'est aussi une relation. C'est pas qu'une confrontation violente, où il faut dominer l'autre. C'est pas que ça. C'est une relation avec l'autre. C'est une relation avec la discipline. D'ailleurs, on voit que il y a des disciplines qui sont marquées par un code. Voilà, un code de conduite. C'est tout ça aussi. C'est les entraînements. C'est ce qui est difficile. Et c'est ce qui fait l'éducation. Voilà, le rapport à l'école, par exemple. L'école, voilà, c'est une discipline, etc. Il y a un cadre, il y a aussi tout un travail à mener. Après, à chacun d'y trouver sa place. Il y a des enfants qui ne sont pas à l'aise à l'école, mais qui sont plus à l'aise dans le sport. Bon, c'était un peu aussi de discuter autour de ça pour se trouver, finalement. Donc, à mon niveau, en tout cas, je trouve que cette expérience autour du sport, de cette expérience. Alors, j'en avais pas beaucoup parlé, mais je pense que le volet compétition, ça joue aussi. Parce qu'entre le sport de loisir et la compétition, c'est pas la même chose. Donc ça, c'est ce que m'a apporté, oui, le titre de France, le fait d'aller le chercher, le fait d'être en équipe de France, de voilà, toutes ces choses-là. Finalement, on s'aperçoit que derrière, il y a tout un travail qui est éducatif et qui participe à la construction du sujet. Et ça, je trouve que c'est un, je trouvais ça intéressant parce que je voyais des ateliers ou certains ateliers qui étaient dénommés, qui avaient été créés autour de l'intitulé Psychobox. Et je trouve que c'est très intéressant, la psychobox.
On va y revenir, on fait une pause musicale et on se retrouve dans un instant.
Radio Grand Ciel.
Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel dans l'émission Un livre, un auteur de Pascal Lerest qui reçoit aujourd'hui Karim Sanogo pour son livre L'éducateur spécialisé confronté à l'incasabilité publié chez l'Harmattan dans la collection Éducateur et Prévention. Alors, avant la pause, Karim, nous étions sur la question de la construction de soi par le sport. Tu nous disais tout l'intérêt du sport pour... voilà, pour advenir. Et tu évoquais aussi la psychobox de Richard Hilbrun, je présume.
Oui.
Donc en fait, j'aimerais qu'on aille là-dessus. Tu étais en train de nous parler de la psychobox. Alors voilà, donc la psychobox, pour toi, c'est quelque chose d'intéressant ?
Oui, tout à fait. J'ai découvert ça. Alors, je ne me souvenais plus du nom de celui qui a initié cette activité, mais j'ai trouvé que c'était... très intéressant dans cette association entre le rapport, cette question d'un rapport au corps, d'un rapport à une activité physique et une dimension d'un rapport à soi, d'éducation, etc. Et par extrapolation, finalement, une dimension à la société, aux autres, etc.
Alors peut-être un mot, excuse-moi, je t'interromps, un mot pour dire à nos éditeurs qui ne connaissent pas forcément la psychobox, pour dire que Richard Hilbrun, qui a inventé la psychobox, est à la fois un psychologue clinicien, il est aussi psychanalyste. Et donc, il a inventé la psychobox pour les publics de jeunes en difficulté, notamment pas que des jeunes, aussi des adultes, mais souvent, il l'utilise pour des jeunes qui sont pas en mesure de trouver les mots, M-O-T-S. Et en fait, il fait parler leurs mots, M-A-U-X, au travers d'un échange physique. Et Richard, un jour, me disait que cette forme de psychanalyse, pour lui, était appropriée pour ceux qui n'étaient pas en mesure de s'allonger sur le divan, parce qu'ils ils peuvent pas articuler avec les mots leur souffrance, leur douleur, leur traumatisme. Et donc, en fait, il a commencé à travailler avec des gens en les faisant bouger. Et il disait que quand le corps bouge, eh bien, ensuite, c'est plus facile de faire advenir des difficultés et de les faire verbaliser. Voilà, juste, excuse-moi, Karim, d'avoir repris la parole à l'instant.
C'est très bien.
Mais ça permet comme ça à nos auditeurs d'avoir une compréhension.
Ouais. Non, c'est très bien parce que j'apprends aussi, du coup, l'état d'esprit qui animait ce psychologue. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Pour des jeunes ou pour des personnes de pouvoir passer par le biais du sport, du corps, de la confrontation avec l'autre, dans l'effort physique, finalement, qui est aussi une voie pour pouvoir se trouver et se construire. Parce que contrairement à ce qu'on peut croire, au-delà des apparences, c'est vrai que c'est violent, ça fait mal, on prend des coups, etc. Mais il y a tout le travail avant. D'ailleurs, je trouve que c'est intéressant parce que finalement, la dimension du sport et du sport de combat, c'est aussi un travail psychologique. Il faut étudier l'adversaire, il faut s'adapter à la situation. Je veux dire, c'est pas comme ça m'arrive à le dire, à pouvoir le dire avec certains jeunes ou certains boxeurs que j'ai pu côtoyer et certains entraîneurs de ce qu'ils pouvaient me dire. C'est important de boxer avec sa tête, voilà, et pas qu'avec ses muscles. En effet, le corps est important, mais il y a toute la dimension cérébrale aussi qui joue. Donc, c'est une forme d'étude, c'est une forme de savoir. Et ça, c'est peut-être pas assez valorisé. Peut-être que les jeunes pensent que ça compte pas, etc. Mais si, ça compte. Voilà.
Et pour ces jeunes, alors qui sont dits incasables, l'utilisation des sports, et notamment des sports de combat, comme ça, des sports d'opposition, on pourrait dire, ça permet de travailler leur conflit intérieur. Est-ce que ça permet de travailler leur conflit intérieur pour ensuite gérer les conflits qu'ils ont dans un cadre plus relationnel?
Oui, ça. Alors, est-ce que c'est le résultat qui va se produire dans l'immédiat? Bon, c'est un processus qui va prendre du temps, mais je trouve que ce qui est intéressant, notamment pour les enfants et pour les jeunes, ados ou jeunes adultes, c'est que il y a une dimension incontournable, c'est le travail sur la connaissance de soi. Parce que dans le face-à-face avec l'autre, si on se connaît pas, on fait n'importe quoi. Donc, par exemple, on veut gagner un combat, on veut dominer l'adversaire, il faut se connaître et connaître l'autre. Donc, finalement, il y a ce double travail. Et c'est vrai que pour ces jeunes, ça va passer par, finalement, je le dis comme ça, pour des jeunes qui s'ignorent, à connaître et à comprendre un peu comment ils fonctionnent. Et c'est là où il y a la dimension psychologique, je trouve, qui est intéressante et d'ailleurs qui montre l'importance de l'entraîneur, qui lui, avec un regard extérieur, va dire « t'es plutôt de ce registre-là, t'es plutôt sur ce style-là ». C'est une communication, ça me fait penser à la communication non-verbale. Le corps dit des choses dans la façon de se mouvoir, de bouger, de se déplacer. On communique des informations autour de nous. Et ça, c'est intéressant pour un jeune qui se construit de savoir qu'est-ce que ce que communique son corps, sa violence, sa rage, sa colère. Et ça, pour certains, je pense que ça fait du bien. Et forcément, ça les amène vers la dimension intérieure, vers leur dimension intérieure. D'où vient cette rage? D'où vient cette colère? En effet, il y a un effort à produire. Donc, il faut aller la chercher.
Et donc toi, tu as utilisé déjà donc la boxe thaïlandaise ou d'autres formes de sport avec des jeunes dits incasables?
Alors ça m'est déjà arrivé avec des jeunes lambda, on va dire. Ouais. C'était pas spécifiquement des jeunes qui étaient considérés ou étiquetés comme difficiles ou incasables. Mais alors après, sur la question de la boxe, c'est toujours ça, la difficulté pour nous, éducateurs spécialisés, c'est de pas entraîner le jeune dans notre désir à nous. C'est-à-dire que l'entraîner vers son désir à lui. Donc c'était voir, parce qu'il y a une multitude de sports. Si c'est le sport de combat, bah de voir. Peut-être c'est le karaté, peut-être pour certains, ça va être, je sais pas, le judo ou... Mais l'idée, c'est ça. C'est ce que je trouvais important, c'est de pouvoir expliquer la distinction entre le sport individuel et le sport collectif. Parce que je trouve que après, je suis pas un spécialiste du sport collectif, mais parce que j'ai pas pratiqué en compétition, quoi. Je pense que dans le sport collectif, il y a sans doute des similitudes avec le sport individuel, mais il y a quand même. Parce que quand on est, je sais pas, je prends mon exemple, quand on est sur le ring face à l'adversaire avec l'arbitre, on est tout seul. Je veux dire, c'est pas pareil que quand on est 11. Je veux dire, c'est pas, voilà quoi. Et ça, je trouve que c'est intéressant et vraiment, en termes de d'effort, de courage, de capacité à se dépasser, etc. Ça dit quelque chose quand même. C'est pas rien. Ça me fait penser à. Ça me fait penser aussi à un autre métier hein, qui a rien à voir. C'est le métier d'avocat. Et j'entendais comment. J'avais regardé une émission où un avocat disait que. Les avocats, quand ils sont face, finalement, au tribunal, ils sont seuls contre tous. Voilà, ça fait ça, quoi. Il y a une dimension un peu... du combat contre tout un collectif et qui n'est pas simple, qui n'est pas facile. Donc, c'est un parallèle que je voulais faire. J'ai pu en tête cette émission que j'avais vue. Mais bon, je trouvais que c'était intéressant... cette dimension du seul contre tous, parce que il y a un contexte qui est pas évident, on est sous le regard des autres, on peut dire la même chose pour le sportif qui est sous le regard du public, etc. C'est Bourdieu qui disait que la sociologie est un sport de combat.
Ah, c'est ça, voilà. Donc, c'est ça, on peut dire. C'est ça. Après, tous les sociologues ne sont pas forcément des combattants. Mais bon. Donc, en fait, comment dire, ce qui est intéressant dans tout ce que tu développes, c'est les vertus donc éducatives, voire peut-être même thérapeutiques, ce que tu as évoqué pour les jeunes. Mais est-ce que les institutions sont vraiment à l'écoute des besoins des jeunes et est-ce qu'elles sont en mesure de leur permettre de travailler un peu leur aspect de conflictualité, hein, déjà intrapsychique, hein, c'est toi qui évoquais le mot de problématique intrapsychique, donc des conflits intrapsychiques. Est-ce que vraiment les institutions aujourd'hui, pour toi qui es engagé dans ces métiers, est-ce que l'institution permet aux jeunes de pouvoir traiter ces questions au travers d'ateliers tels que des ateliers avec le sport, par exemple?
Alors, dans les institutions dans lesquelles j'ai pu travailler, je trouve que c'est une dimension qui est en régression. À une certaine époque, toute la dimension des activités culturelles, loisirs, etc., était mis en avant, soutenu, les moyens étaient mis à disposition pour pouvoir les développer. Alors, par rapport à la question des jeunes dont on s'occupe, je trouve qu'en effet ça a régressé. Alors le focus, il est essentiellement mis sur notamment à un certain âge, et je pense à cet âge où on voit parfois radicalement basculer le travail d'accompagnement vis-à-vis des jeunes, c'est 16 ans. À l'âge de 16 ans, on est en grande partie confrontés à tout un travail d'insertion socio-professionnelle, c'est-à-dire la préparation de la majorité et l'entrée dans l'âge adulte. Et voilà, pour finalement que les jeunes puissent avoir un travail, une formation. Et du coup, ça a complètement paralysé toute la dimension activité, culturelle, loisirs, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est... c'est dommage pour certains jeunes qui étaient pas encore prêts et qui avaient besoin de passer par là avant de s'inscrire et de s'insérer dans la dimension socio-professionnelle. Donc, ça a complètement... renverser la pratique des éducateurs spécialisés où finalement le message qui était envoyé c'était tant que avant 16 ans on pouvait envisager en effet du loisir, du sport, etc., tout ce qui allait avec, à partir de 16 ans terminé, dans 2 ans le jeune il est majeur, il faut préparer son entrée dans la vie active, qu'il ait un boulot, un logement, etc., et tout de suite finalement tout ce qui était demandé dans la dimension du sport ou dans des activités atypiques était mis de côté. Et ça a un peu, je trouve, d'ailleurs, pour avoir échangé avec beaucoup de jeunes à ce niveau-là, beaucoup l'ont regretté. Et pour certains, ça a rendu parfois la vie en collectivité triste, un peu pauvre à ce niveau-là, parce que c'était juste un espace... un espace de travail pour l'avenir, alors de construction de l'avenir, ce qui est utile, etc., mais sans finalement dimension, sans cette dimension de l'épanouissement qui pouvait se faire par le loisir, etc.
Très bien. On va revenir sur cet aspect, on fait une pause musicale et on se retrouve juste après.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.
Vous êtes sur Radio Grand Ciel, dans l'émission Un livre, un auteur, avec Pascal Lerest qui reçoit aujourd'hui Karim Sanogo pour son livre L'éducateur spécialisé confronté à l'incasabilité. Alors, juste avant la pause, donc, on évoquait cet âge frontière de 16 ans qui donnait lieu en fait à l'interruption d'activités culturelles ou sportives pour aller vraiment vers des enjeux d'insertion socio-professionnelle. J'ai envie de te demander, est-ce que finalement l'arrêt des activités sportives ou culturelles, c'est pas lié au fait que c'était aussi vécu comme des sortes d'activités occupationnelles ? Alors que toi justement tu parles de construction de l'individu, construction de soi. Tu parles en fait aussi de voyage intérieur, en quelque sorte, pour permettre d'élaborer des contenus qui doivent l'être si on veut pouvoir dépasser des souffrances, dépasser des états liés à des violences subies, etc. Or, le sport, si j'ai bien compris, dans les institutions, c'était simplement vu comme des activités occupationnelles.
Oui, il y a cette idée-là qui est sous-jacente, en effet, et qui explique en partie ce renversement. Oui, je pense. Et d'ailleurs, certains, je me souviens de situations de certains jeunes dont on avait pu saisir le magistrat et qui avait cette réponse-là en disant c'est pas la priorité. Comme si finalement, derrière cette phrase, je me souviens, c'est un séjour ski. Voilà, pour être précis, c'était un séjour ski. Le magistrat de dire c'est pas la priorité. À 17 ans, on n'est pas sur du séjour ski. On est sur, finalement, se projeter vers l'avenir, vers l'entrée, etc. Ce qui n'est pas faux, mais on a des jeunes qui ont un parcours, qui ont une trajectoire particulière, qui ont un parcours compliqué, avec une histoire familiale, pour certains, dramatique. Et en effet, la construction de ces jeunes va passer, ne sera pas sur une ligne droite comme on pourrait le penser, etc. Et du coup, en justifiant pourquoi, à un moment donné, avec tel jeune, il est essentiel, non pas quotidiennement, mais de temps en temps, de pouvoir intégrer des moments de loisirs, de culture, etc., parce que ça participe aussi de l'éducation, eh bien, j'étais étonné de cette réponse du magistrat, qui disait « c'est pas la priorité », donc on a bien vu ce qu'il y avait derrière. Voilà, la priorité, c'est le travail, c'est la dimension travail. Voilà, travail, logement... voilà, donc du coup ça n'a pas pu se faire et on en est resté là et avec ce triste constat que l'accompagnement des adolescents, en tout cas en préparation à l'entrée dans l'âge adulte, eh bien aujourd'hui on était confronté à une nouvelle donne et qui devait finalement tenir compte de cette dimension économique, etc., et tout ce qu'il y a derrière.
Et pour ces jeunes, justement, c'est facile, l'insertion socio-professionnelle ?
Pour certains, c'est compliqué, parce que... Alors, si on reste sur la problématique de l'incasabilité, beaucoup ont eu un parcours scolaire chaotique, donc il faut renouer aussi avec ça. Ouais. C'est pas évident, et quand c'est pas... Pour certains, c'est pas facile, c'est pas possible. Donc, c'est une orientation vers des métiers en tension, difficiles, pour lesquels ils n'ont pas forcément d'attrait, des métiers de contrainte, parce que, voilà, faut bien vivre, faut bien...
Donc, alors c'est quoi ? C'est le métier du bâtiment, par exemple ?
Oui, ça peut être ça, le métier du bâtiment, le secteur social pour certains. D'ailleurs pour...
Secteur social, mais en même temps, il faut des diplômes, secteur social.
Oui, je pense à des... parfois, c'est une évolution par le bas, c'est-à-dire avoir une fonction très simple. Je pense au métier de l'animation aussi, à commencer par le BAFA, quelque chose de... qui va s'inscrire comme une entrée aussi avec la dimension formation scolaire, etc. Et pour certains, de regagner confiance et de partir après et d'évoluer. Pour d'autres, c'est moins le cas. Mais oui, en effet, c'est pas évident parce que toute cette dimension de souffrance interne, elle n'a pas été complètement résolue. Voilà, en tout cas, ces jeunes en question restent entre guillemets envahis par leur propre tension interne. Voilà, leur propre souffrance, les difficultés familiales, etc. Et on a au fil de toutes ces années, on est parfois un petit peu passé à côté. Pour certains, ça demande du temps. La dimension de la temporalité, elle est aussi à prendre en compte. Mais on va dans un monde qui va de plus en plus vite. Ouais. Par exemple, cet exemple des 16 ans, ça, je veux dire, ça raccourcit la dimension du travail. Puisque si à 16 ans, Il faut tout de suite déjà, alors dans la pensée, dans la projection, très bien, mais si à un moment donné on limite les moyens pour favoriser la dimension activité économique, etc., et qu'on ne s'adapte pas à la situation du jeune qu'on a en face, finalement, on peut... finalement, à qui on rend service ? On rend service à l'adulte, à la société, ou on rend service aux jeunes ? Voilà, c'est toute la difficulté de l'éducation spécialisée. Ouais. C'est comment on accompagne des problématiques particulières.
Ok, très bien. On fait une pause et puis ensuite on en vient à la rubrique des livres du mois. Vous êtes toujours sur Radio Grand Ciel dans l'émission Un livre, un auteur, et j'aborde maintenant la rubrique des livres du mois avec un premier livre, une fois n'est pas coutume, un livre qu'on peut qualifier de polar, un livre de Bernard Minier, M, le bord de l'abîme, chez Ixo Édition, un livre de 2019. Certains pourront dire « Ah, enfin, un livre pour se distraire !» Voilà, pour se distraire, mais attention, stress à tous les étages. C'est un livre qui est très dynamique, qui va vous emmener en Asie, et qui est angoissant parce que Bernard Minier montre tous les effets possibles des nouvelles technologies. Et il montre comment la mort peut être au rendez-vous avec ces nouvelles technologies, comment on peut être débordé. C'est un livre qui va très très vite, mais qui vous emmène quand même sur 625 pages. Un livre qui est long, mais qui se lit très très bien de bout en bout. Et vraiment, je vous le conseille. Je lis très peu de polar, celui-là m'a été conseillé et vraiment, 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 c'est très très bon. Donc je vous en rappelle le titre, M, le bord de l'abîme, de Bernard Minier, chez Ixo Édition, un livre de 2019. Alors, un deuxième livre qui nous emmène dans quelque chose de plus local. Un livre assez court qui s'intitule « La maison Picassiette », un livre de Paul Fuchs. Paul Fuchs donc vit dans le département d'Eure-et-Loir. C'est un spécialiste de Raymond Isidore, donc celui qui a fait « La maison Picassiette », dont je rappelle que c'est le deuxième monument le plus visité d'Eure-et-Loir. Alors, le livre a été publié par les Amis du Musée des Beaux-Arts de Chartres. C'est un livre assez court qui fait 27 pages et qui vous permet en fait de comprendre chacune des thématiques travaillées par Raymond Isidore. Donc on circule de pièce en pièce et on comprend en fait, chemin faisant, les motivations de Raymond Isidore et les raisons pour lesquelles... Il a pu faire tel ou tel décor donc sur cette maison. Voilà, vraiment un très beau livre de Paul Fuchs, La maison Picassiette, par les Amis du Musée des Beaux-Arts de Chartres. Donc bien sûr, le mieux c'est d'aller au Musée des Beaux-Arts si vous voulez acquérir le livre. Un troisième livre... Toujours sur le département d'Eure-et-Loir, Histoire du canal Louis XIV, de Pongouin à Maintenon. Alors, c'est un livre qui est plus ancien, qui date de 2014, publié donc par le comité archéologique d'Eure-et-Loir, un livre de Gabriel Despaux et de Jacques Galland. Donc, Un livre qui fait également une trentaine de pages, je pense, un peu plus, presque 50, avec de très belles photographies, et qui vous permettra aussi d'ailleurs du coup de cheminer de Pont-Gouin à Maintenon, de voir un peu les différents vestiges, les différents éléments qui restent encore visibles aujourd'hui. Ça donne lieu à de belles promenades, à des belles déambulations dans des endroits qui sont assez intéressants hein, dans le département, qui vous amènent de vallées en forêt, de prairies en endroits bucoliques. Donc franchement, je vous conseille ce livre. Et puis voilà, vous aurez accès également à tout le patrimoine historique et à des anecdotes également qui sont truculentes. Donc, Histoire du canal Louis XIV de Pont-Gouin à Maintenon, publié par le comité archéologique d'Eure-et-Loire en 2014, donc de Gabriel Despaux et Jacques Galland. Enfin, un dernier livre, donc très très sérieux, beaucoup plus important, long également, donc un livre de Geneviève Burer-Thierry et de Charles Mériot, 481-888. La France avant la France, chez Folio Histoire de France. Alors, un livre qui fait 800 pages, avec, bien sûr, des annexes, etc. On va dire le livre lui-même, il fait 600 pages. Mais c'est une mine, c'est une mine. Tous les historiens s'accordent aujourd'hui à le dire. C'est le livre qui permet de synthétiser donc ce qu'était la France avant qu'elle se constitue vraiment comme royaume de France, et donc qui vous permet de comprendre les fondations carolingiennes et ce que l'Empire également a pu permettre jusqu'à ce que les envahisseurs vikings, par exemple, déferlent donc dans les différentes contrées, en Lotharingie, en Francie, etc. Et donc, ce n'est pas simplement anecdotique, c'est extrêmement fouillé. On n'est pas simplement sur la question des guerres et des dates, on est vraiment sur une histoire compréhensive qui cherche aussi à rendre compte de la vie et du déroulement des différentes institutions en devenir. Par exemple, je pense à la fondation donc de l'épiscopat, la question de la construction de la chrétienté, la question de l'élaboration des monastères, comment les règles monastiques également se sont élaborées au cours de ces différents siècles qui vont du 5e au 9e. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de très intéressant qui permet d'avoir une compréhension aussi sur ce que seront les siècles suivants d'une société qui s'échafaude aussi sur le christianisme très fortement à cette époque-là. Voilà, donc de Geneviève Burer-Thierry et Charles Mériot, La France avant la France, 481-888. Bien sûr, vous aurez compris que c'est entre le 5e et le 9e siècle. Alors donc, chez Folio, Histoire de France, un livre de 2019. On retrouve tout de suite Karim Sanogo pour la suite de notre émission. Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel avec Pascal Lerez dans l'émission Un livre, un auteur, qui reçoit aujourd'hui Karim Sanogo pour son ouvrage vraiment très très important et utile, L'éducateur spécialisé confronté à l'incasabilité. Alors, Karim, J'ai envie de te poser la question, est-ce qu'il n'y a pas de plus en plus d'enfants en difficulté qu'on peut qualifier d'incasables, mais qui sont parfois dénommés cas limite ou état limite, ou bien qu'on dit hyperactifs, est-ce qu'ils ne sont pas de plus en plus nombreux ?
Eh bien, c'est ta question, elle est à l'origine de cette étude. C'est que, au-delà du phénomène d'incasabilité, quand on parcourt l'histoire, on s'aperçoit qu'il y a toujours eu des adolescents difficiles, compliqués, etc. Et il y en a toujours eu. Ce qui m'avait interpellé, c'était l'augmentation du phénomène. Ça, c'est quelque chose qui m'intriguait et qui a finalement générer chez moi cette envie de me pencher sur la question. Donc en effet, oui, contrairement à ce que je pensais, parce que j'ai mené cette réflexion à partir de mon département, là où j'exerçais en Seine-et-Marne, et de ce que je pouvais en voir et entendre, je me disais, bon, ben voilà, on est confronté à cette problématique-là, mais sans savoir que finalement ça s'arrêtait pas qu'à ce département et qu'on pouvait et que ce phénomène était aussi observé ailleurs. Donc en effet, je trouvais que c'était il y avait un paradoxe avec des professions formées pour les enfants difficiles, l'accompagnement des enfants difficiles, et une explosion d'enfants difficiles. Je veux dire, il y avait un paradoxe, quoi. Je comprenais pas. Je me disais, même si en effet, bien sûr qu'il y a des situations complexes qui nous échappent, qui sont pas évidentes à résorber, l'ampleur du phénomène, oui, je trouvais que ça pouvait dire quelque chose sur ce qui pouvait se passer. Dans le secteur social et médico-social. Et moi, l'idée, c'était de m'arrêter sur une profession. Mais contrairement à ce que je pensais, le phénomène, il est en recrudescence, pas qu'en Seine-et-Marne. Là, aujourd'hui, j'exerce dans l'Essonne. Dans l'Essonne, il y a des dispositifs qui sont mis en place autour de ces jeunes.
Et pour autant, il y a de moins en moins de moyens financiers qui sont déployés.
Alors... c'est une autre question qui je trouvais méritait aussi qu'on puisse s'arrêter, c'est que les prix de journée sont quand même assez conséquents par rapport à ce public. C'est pas le même prix de journée qu'un jeune placé en MEX. Classique, structure traditionnelle. On a des prix de journée quand même assez conséquents. Mais entre le prix de journée et les résultats, il y a un décalage. Et un décalage non négligeable. Et je me dis... et en effet, je sais pas, un comptable ou qui serait plutôt versé dans les chiffres... comme peut l'être le gouvernement avec toutes les restrictions budgétaires peut dire bon, qu'est-ce qui se passe, quoi, qu'est-ce que vous faites en fait avec. Donc ça aussi c'est intéressant, je me dis d'ouvrir cette dimension entre guillemets d'observation du travail social ou de cette question de l'ingénierie pour creuser cette question-là. Qu'est-ce qui fait qu'on a un prix de journée qui est quand même assez conséquent, mais en termes de résultats, bon...
Mais parce qu'aussi, c'est peut-être aussi que les professionnels qui interviennent dans ces structures ne sont pas toujours bien formés ou n'ont pas forcément toujours les diplômes. Parce que ceux qui sont diplômés pour avoir travaillé dans le secteur, ceux qui sont les mieux diplômés vont généralement aussi vers les structures, entre guillemets, les plus intéressantes, les moins difficiles.
Oui, tout à fait.
Non, c'est pas vrai ?
Oui, c'est vrai.
C'est un peu comme les agrégés dans l'éducation national, ils vont pas, s'ils peuvent éviter les ZEP et aller vers les établissements, les lycées les plus cotés, c'est ce qu'ils font.
Ouais. C'est vrai qu'on est un secteur qui est pas très attractif, et en effet, dans le secteur, au niveau des publics, ce type de structure l'est encore moins. Donc ça attire beaucoup moins de professionnels formés, diplômés, et du coup, on a des établissements qui se retrouvent finalement, qui n'ont pas d'autre choix que de recruter... entre guillemets, j'allais dire le tout venant, je mets des guillemets, quoi.
Ah oui,
ça, mais ça fait ça.
Mais j'ai vu ça en Seine-et-Marne, Amadis. Tu connais Amadis?
Oui.
La structure. Donc moi, j'y suis intervenu quand j'étais conseiller technique.
Oui.
Et dans la structure Amadis, j'ai vu beaucoup de professionnels en difficulté. Pourquoi? Bah aussi parce qu'ils n'étaient pas formés pour.
Ouais.
Et en fait, alors ils avaient beau être jeunes, avoir des tas de qualités et de la motivation, ils n'avaient pas forcément la formation leur permettant justement d'être vraiment opérationnels et d'avoir le recul par rapport aux problématiques lourdes qui étaient celles des adolescents. Quoi. Ouais. Et puis ils n'avaient pas non plus des cadres hiérarchiques forcément très présents et très porteurs non plus.
Mmh.
Bon, voilà, c'est un peu, c'est un peu critique peut-être, mais c'est vrai que c'est un constat que j'ai pu faire, moi, quand je travaillais donc dans le social. Et il se trouve que j'étais aussi en Seine-et-Marne, comme tu as pu l'être, quoi.
Ouais. Oui, donc, donc là-dessus, en effet, il y a un travail de réflexion à mener. Parce qu'en attendant, ben, il y a pas mal d'enfants ou de jeunes adolescents, de jeunes adultes qui finalement qui souffrent de ces situations-là. Comme tu disais, ils n'ont pas les moyens de pouvoir l'exprimer comme il le faudrait, donc ça casse, ça tape, ça agresse, ça transgresse, ça ou sinon ça va vivre dans la rue. Ça, voilà quoi. Je veux dire, à un moment donné, quand les adultes présents où le système ou l'institution est entre guillemets, on va dire, défaillante pour X raisons, mais c'est bien de s'intéresser sur qu'est-ce qui fait la défaillance, sans vouloir jeter la pierre, eh bien, ça se construit par défaut. Et on en arrive à une explosion du phénomène. Mmh. Voilà, bon, c'est je trouve que c'est intéressant de changer son regard sur ce qui peut se produire pour sortir des constats et de dire voilà, on observe ça, donc le problème il est là. Eh bien, au-delà des apparences, il y a beaucoup de choses qui se passent et il faut pouvoir les analyser, quoi.
Super, eh bien, merci à toi, Karim. J'engage tous nos auditeurs à se procurer ce livre, qui est un livre très important parce que, comme son sous-titre l'indique, une enquête à l'épreuve du lien. C'est un livre donc qui renvoie au terrain, qui est celui d'un éducateur spécialisé, qui connaît bien les rouages, les ficelles de son métier et qui a donc conduit une enquête assez subtile pour comprendre en fait à quoi sont confrontés les professionnels et qui articulent en fait les différents questionnements autour du traitement entre guillemets de ces jeunes qu'on nomme incasables. Alors j'en rappelle le titre avant de nous quitter. L'éducateur spécialisé confronté à l'incasabilité, une enquête à l'épreuve du lien. Dans la collection Éducateurs et Prévention chez l'Harmattan, un livre donc de Karim Sanogo. Merci Karim, à toi d'être venu jusqu'à nous.
Merci.
Et puis une prochaine fois pour un prochain livre éventuellement. À bientôt et merci à Simon qui a réalisé l'émission.